Jardin d'Isis avec Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, sur Alliance Plus, fréquence 103.1 à Nîmes et sur Internet en direct sur le site www.fmplus.org. Je vais vous parler aujourd'hui du poète Francis Carco. C'est un écrivain, poète, journaliste et auteur de chansons françaises qui a été entre autres chanté par Édith Piaf, Serge Reggiani. Jean Ferrat lui a créé une chanson également. Il est d'origine corse, il est né le 3 juillet 1886 à Nouméa en Nouvelle-Calédonie et il est mort en mai 1958 à Paris. Il était aussi connu sous le pseudonyme de Jean Deguerre. Son nom de naissance était Francis Carpino Tuzoli, dit Francis Carco. Carco passe ses 5 premières années en Nouvelle-Calédonie, où son père travaille comme inspecteur des domaines de l'État. Chaque jour, il voit passer sous les fenêtres de la maison familiale les bagnards enchaînés en partance pour l'île de Nou. Il restera marqué toute sa vie par ces images. Son père est ensuite nommé en métropole. Il réside alors avec sa famille à Châtillon-sur-Seine. Confronté à l'autoritarisme et à la violence paternelle, il se réfugie dans la poésie où s'exprime sa révolte intérieure. En 1901, la famille s'installe à Villefranche-de-Rouergue, puis au gré des mutations du père à Rodez. Il fait de fréquents séjours chez sa grand-mère. À Nice, il fait quelques séjours à Agen où il est pion durant 4 mois. Avant de se faire virer par le proviseur. Ayant été surpris, laissant sans surveillance les élèves dont il avait la charge, puis à Lyon, à Grenoble, des villes dont il parcourt et observe les bas-fonds. Au cours de ses séjours, il rencontre les jeunes poètes qui fonderont avec lui, dès 1911, l'école fantaisiste, avec certains poètes, Léon Vérane, Tristan de Rême. Je vais vous lire 4 de ses poèmes. Province. Les tilleuls parfumaient la blonde matinée, province. Il y avait de l'herbe plat la cour, et quand nous descendions jouer dans le grand jour, nos âmes gravement étaient illuminées. Oh, nos clairs tabliers d'enfants dans le jardin, cela disait, cela chantait sans le comprendre, dans un balbutiement mystérieux et tendre, le bonheur qui comblait nos cerveaux enfantins. L'azur tremblait au bleu reflet du toit d'ardoise, et quand nous rentrions joyeux à la maison, l'ombre avait la senteur acide des framboises qui mûrissaient au bas du mur frais du salon. Jardin. Il a plu. Le jardin dans l'ombre se recueille. Les chrysanthèmes vont mourir sans qu'on les cueille. Dans les sentiers mouillés, effeuillaison de fleurs trop pâles. Sur le sable, où pas un bruit ne bouge, évanouissement des grands dahlias rouges. Murmure indéfini de toutes ces douleurs, de choses écoutant agoniser les fleurs, et de blancs pigeonniers veillent le crépuscule. Mon enfance, de moi, comme tu te recules, parmi ce soir qui tombe et ce jardin qui meurt, tu pars et tu ne reviendras jamais, peut-être, ton souvenir déjà n'est plus qu'une rumeur dans un halo et qui, bientôt, va disparaître. Et je reste à rêver, tout seul, à la fenêtre, veillé. Dans la petite pluie et le brouillard d'hiver, les colombiers de notre maison sont déserts. Ils sont dressés à l'angle morne des toitures, comme pour regarder par-dessus la maison, à travers le brouillard pluvieux, l'horizon où sont partis les pigeons bleus à l'aventure. Voici l'hiver et la solitude à présent. L'herbe folle envahit les corbeilles d'automne où les grands dahlias mouillés parfois frissonnent en s'effeuillant sur la pelouse quand le vent vient gémir sourdement aux fenêtres fermées. Ne pleure pas. Nous serons ceux qui restent tard au coin du feu, par les nuits longues de brouillard, dans la clarté de la bonne lampée allumée. Nous entendrons le mauvais temps battre très fort. Nous entendrons la pluie à grands coups sur les toits. Et ce sera comme un meilleur soir d'autrefois, quand veillaient les enfants et qu'il pleuvait dehors. Cependant qu'on leur racontait la belle au bois dormant. À 6 heures, à Tounilyris, 6 heures, c'est la paix des grands jardins fleuris, quand la pluie a mouillé de l'aurore l'odeur des lavandes, tandis que je m'accoude à la fenêtre grande ouverte et que, distrait et rêveur, je souris. Des prêles vaguement luisent dans l'herbe humide où rôde la senteur fraîche des foins coupés. Les premiers, c'est le grand silence et c'est la paix qui rêve au creux des fleurs et des bassins limpides. Dans les branches se sont blottis les rossignols. Le crépuscule bleu descend à fleur de sol. Dans tout ce bercement de choses apaisées, cependant qu'avec des paresses, des douceurs, pour veiller le jardin comme de grandes sœurs, des lampes lentement s'allument aux croisées. Avec le poème Francis Carco dans Jardin d'Isis. Carco monte à Paris en janvier 1910, il a 23 ans. Il commence à fréquenter Montmartre, il se rend au Lapin à Gilles. Il est immédiatement accueilli à la grande table où se réunissent les bohèmes de ce temps. Il est aussi l'ami d'Apollinaire, de Max Jacob, de Maurice Utrillo, de Modigliani, etc. Il assure également la critique artistique dans les revues L'Homme Libre et Gil Blas. Sentant qu'il risque sa perte dans ce Montmartre des plaisirs et du crime, il rejoint à Nice sa grand-mère. Il publie son premier recueil, « La bohème et mon cœur » en 1912. Au début 1913, Carco retourne à Paris. Il rencontre Catherine Mansfield, qui est compagne de John Middleton Murray, un journaliste londonien, rebelle et pure jeune fille, originaire de Nouvelle-Zélande. Catherine quitte quelques mois le domicile conjugal. Il entame avec elle une relation troublante, inaboutie, un amour voué au désastre, comme il le disait lui-même, qui le marquera jusqu'à la fin de ses jours. Il dira que cette dernière lui a donné toute l'inspiration et les descriptions de Paris qu'il utilisera lorsqu'il publiera Les Innocents en 1916. En 1914, il publie au Mercure de France 3 poèmes. La fenêtre. La fenêtre est ouverte et le jardin s'endort longuement avec des bruits d'eau et des murmures d'invisibles oiseaux blottis dans les ramures que le soir a tiédi de sa caresse d'or. La fenêtre est ouverte et monte le silence du cœur des fleurs, du cœur de l'ombre jusqu'à nous qui, pensifs, l'écoutons venir à pas très doux du fond de notre obscure et grave conscience. La fenêtre est ouverte et le jardin n'est plus qu'une chose confuse et doucement lointaine où l'on entend parfois, aux rumeurs des fontaines, bouger les ailes des oiseaux qui se sont tus. Il pleut, bergère. Il pleut, bergère. C'est l'automne qui s'en vient. L'heure des potagers vides où les laitues s'affadissent. Toutes les cloches se sont tues. Seul le vieux pigeonnier délabré se souvient. Les chambres, longuement, s'emplissent de mystères. On n'a pas allumé de lampe. Il pleut, bergère. Vers la ville, les routes larges sont parties et toutes les maisons sont closes à jamais, avec des airs de calme éternel et de paix. Mais, cependant, dans tout ce silence, je sais qu'au jardin, il y a des limaces sorties, silencieuses, et qui vont par les orties, et que, parmi les grandes plaines sans personne, les herbes folles ont compris l'heure et frissonnent. Plainte. Un jour blême, un jour sale, et la bise qui fouette les volets. Quelquefois un cri dur de mouette, ou le bruit de la mer, ou la porte qui bat. Voici l'automne, avec la pluie et son ciel bas. L'embrun flotte, noyant l'horizon maritime. Tout est gâché, tout est perdu, chagrins intimes. J'entends siffler le vent dans les hauts peupliers. Je vois passer des gens frileux, mornes, pliés dans des foulards. Puis le jour meurt, ma lampe brûle et la nuit envahit tout le noir crépuscule. Francis Carco, en 1914, publie au Mercure de France « Jésus Lacaille », histoire d'un proxénète homosexuel dont il a écrit la plus grande partie lors de son exil refuge chez sa grand-mère à Nice. Mobilisé en novembre 1914 à Gré, en tant qu'intendant des postes, il a pour habitude d'écrire des poèmes sur les enveloppes des courriers qu'il distribue aux soldats. Il rejoint, grâce à l'aide de Jean Paulhan, un corps d'aviation près de Bourges, puis à Étampes et enfin à Longvic près de Dijon. Il aura très peu l'occasion de voler, se blessant au genou et étant assez vite démobilisé. Il rencontre Colette dans les couloirs du journal L'Éclair en 1917. « J'ai rencontré une grande dame », écrira-t-il à son ami Léopold Marchand. Leur amitié durera jusqu'à la mort de Colette. D'autres livres suivront, notamment « L'homme traqué » en 1922 Il écrit aussi ses souvenirs sur Toulé et Catherine Mansfield, Maman Petit Doigt, De Montmartre au Quartier Latin, À Voix Basse, Nostalgie de Paris, ainsi que des reportages sur le milieu et des biographies romancées de Villon, Verlaine, Utriot, Gérard de Nerval. Son œuvre est riche d'une centaine de titres, romans, reportages, souvenirs, recueils de poésie, mais aussi de pièces de théâtre comme Mon homme. Quelques poèmes. Autre chanson. Des saules et des peupliers bordent la rive. Entend contre les vieux piliers du pont l'eau vive. Elle chante comme une voix jase et s'amuse, et puis s'écrase sur le bois frais de l'écluse. Le moulin tourne, il fait si bon quand tout vous laisse s'abandonner, doux vagabond, dans l'herbe épaisse. Parade. Une chanson plaît au poète qui la répète à sa façon. Cherche ta muse où tu voudras, entre deux draps fais qu'on s'amuse. Entière, sans plus, haute morale qu'un bon scandale et son salut. Sois moins honnête qu'il ne le faut, mais verbe haut, poète, poète. Berceuse. Ce lent et cher frémissement, c'est la pluie douce dans les feuilles. Elle s'afflige et tu l'accueilles dans un muet enchantement. Le vent s'embrouille avec la pluie. Tu t'exaltes. Moi, je voudrais mourir dans ce murmure frais d'eau molle que le vent essuie. C'est la pluie qui sanglote. C'est le vent qui pleure, je t'assure. Je meurs d'une exquise blessure et tu ne sais pas ce que c'est. Verlénien. Un arbre tremble sous le vent, les volets claquent. Comme il a plu, l'eau fait des flaques. Des feuilles volent sous le vent, qui les disperse et brusquement il pleut à verse. Le jour décroît, sur l'horizon qui diminue, je vois la silhouette nue d'un clocher mince avec sa croix. Dans le silence, j'entends la cloche d'un couvent. Elle s'élève, elle s'élance, et puis retombe avec le vent. Un arbre que le vent traverse geint doucement, comme une floue et molle averse qui s'enfle et tombe à tout moment. Du vieil amour mélancolique que j'ai pour toi, restera-t-il que la musique monotone de cette voix ? Francis Carco réside à Cormeil en Vexin, puis revient au pied de la Butte, puis au Quai d'Orsay. En 1932, à l'occasion de conférences qu'il donne à Alexandrie en Égypte, il fait la connaissance d'Eliane Négrin, épouse du prince du coton égyptien Nissim Agion. C'est le coup de foudre. Il n'hésite pas à quitter sa première femme. Il divorce aux grandes dames de ses amis de la butte pour accueillir à ses côtés Eliane, qui laisse son mari, ses richesses et ses 3 enfants en Égypte. Après la guerre, il s'installe à nouveau à l'île Adam. De 1948 à son décès dû à la maladie de Parkinson, Carco habitera sur l'île Saint-Louis à Paris. Il meurt le 26 mai 1958. Il est inhumé au cimetière parisien de Bagneux. Carco a été élu membre de l'Académie Goncourt en 1937. Surnommé le romancier des Apaches, il réalisa les plus forts tirages d'édition de l'entre-deux-guerres. Quelques poèmes. Petite suite. C'est avec la première brise que mon cœur s'en est allé. Les lilas qui bordent l'allée ont à nouveau refleuri. Les sureaux et la viorne sur le ciel blanc bougent, bougent. Peut-être reverrai-je encore l'if noir, les buis verts, le houx, et retombant du mur qui croule, la glycine qui dénoue tout le flot de ces grappes pâles que je chéris d'un air morne. Ni les lilas, ni les sureaux, ah, ni la viorne extravagante ne refleuriront de bientôt. Mais qu'importe, siffle, chante. Les merles blottis dans le buis, la pie au bout de l'if, les grives étourdies qui piquent les fruits du houx s'envoleront vite. La glycine est morte, le mur s'est écroulé dans la broussaille. Et toi, mon bel et tendre amour, voici que tu te réveilles. Un autre se dira, pourquoi suis-je donc parti loin d'elle? Il y pense à la chandelle et dans son lit gèle de froid. Dans mon lit, je ne suis pas seul, je sais bien parbleu pourquoi, et cependant que de fois je me prends à penser à elle. L'heure du poète à Pierre et Jean Sylvestre. La fillette aux violettes, équivoque à l'œil cerné, reste seule après la fête et baise ses vieux bouquets. Ce n'est ni la nuit ni l'aube, mais 7 heures où, dans Paris, les rôdeurs et les chiens maigres errent dans un brouillard gris. L'heure amère des poètes qui se sentent tristement portés sur l'aile inquiète du désordre et du tourment. Et ma lampe qui charbonne, lui, sur ce pauvre cahier, d'où se lèvent des fantômes que je croyais oublier. Les amis à Colette. Léa, qui fut assassinée, défait son peignoir de soie. Gilberte, sur la cheminée, pose son loup jaune et noir. Un triste carnaval s'ébroue dans le brouillard qui se lève. Elle, sereine, joue à joue, sont les mortes dont je rêve. Mais elles n'ont regard, ni voix, ni forme déterminée. Léa qui fut assassinée, Gilberte au loup jaune et noir, ce sont 2 amis inconnus qui se cherchent dans mon cœur et qui s'étonnent d'être nus, sans parfum et sans chaleur. Elles échangent des caresses, des soupirs et des aveux, et languissantes toutes deux, rient du rire qui les oppresse. La ronde à Louise Hervieux. Là-haut, dans sa chambre vide, Gaspard joue du violon et les mortes qu'il invite à danser tournent en rond. C'est la ronde ou bien le sabbat. Cela grince, siffle, gronde et sautille à petits pas. Toulouse-Lautrec. La lumière des globes blancs que le gaz illumine, c'était hier au triste mime, t'éclabousse comme du sang. De très vieilles prostituées tournent au fond du bal, des corps mouvants d'un idéal, comme d'autres qu'on a tués. Pas de bruit, mais une clameur sourde et mélancolique envahit plus que la musique le désert ivre de nos cœurs. Et la nuit rôde autour des belles qui s'arrêtent parfois pour corriger le rouge aux doigts, l'accent faux d'un rire immobile. Carco définit lui-même son œuvre comme un romantisme plaintif où l'exotisme se mêle au merveilleux avec une nuance d'humour et de désenchantement. Dans ses livres transparaît l'aspiration à un ailleurs, des rues obscures, des bars, des ports retentissant des appels des sirènes, des navires en partance et des feux dans la nuit. L'enfant, battu par son père corse, consacra sa vie aux minorités, et en fera souvent le sujet de ses romans. Kanak, témoin de ses premières années à Nouméa, prostitué, mauvais garçon. Nous allons écouter L'ombre à André Rousseau. Quand je t'attendais dans ce bar, la nuit, parmi des buveurs ivres qui ricanaient pour avoir l'air de rire, il me semblait que tu arrivais tard et que quelqu'un te suivait dans la rue. Je te voyais te retourner avant d'entrer. Tu avais peur, tu refermais la porte et ton ombre restait dehors. C'était elle qui te suivait. Ton ombre est toujours dans la rue, près du bar, où je t'ai si souvent attendue. Mais tu es morte et ton ombre, depuis, est toujours à la porte. Quand je m'en vais, c'est à présent moi qu'elle suit, craintivement, comme une bête. Si je m'arrête, elle s'arrête. Si je lui parle, elle s'enfuit. Ton ombre est couleur de la pluie, de mes regrets, du temps qui passe. Elle disparaît et s'efface, mais envahit tout à la nuit. Sous le métro de la Chapelle, dans ce quartier pauvre et bruyant, elle m'attend, derrière les piliers noirs, où d'autres ombres fraternelles font aux passants qu'elles appellent de grands gestes de désespoir. Mais les passants ne se retournent pas. Aucun n'a jamais su pourquoi. Dans le vent, qui fait clignoter les réverbères, dans le vent froid, tremble de mystère, soudain se ferme sur ses pas. Et moi qui cherche où tu peux être, et moi qui sais que tu m'attends là, je passe sans te reconnaître, je vais et viens toute la nuit. Je marche seul, comme autrefois, et ton ombre, couleur de pluie, que le vent chasse à chaque pas, ton ombre se perd dans la nuit, mais je la sens tout près de moi. Cependant, tu n'étais qu'une fille des rues, qu'une innocente prostituée, comme celle qui apparut dans le quartier de Whitechapel, un soir, à Thomas de Quincey, et qu'il chercha plus tard, sans jamais la trouver, de porche en porche et d'hôtel en hôtel. Il le raconte dans un livre. C'est là, pour la première fois, que je t'ai rencontrée. Tu étais là, c'est triste, comme les filles de Londres. Tes cheveux conservaient une odeur de brouillard, et lorsqu'ils te voyaient à la porte des bars, les dockers ivres t'insulter ou t'escorter dans la rue sombre. Je n'ai pas oublié l'effet que tu me fis dans ce livre désespéré, ni le vent, ni la pluie, ni le pavé qui luit, ni les assassins dans la nuit, ni les feux des estaminets, ni les remous de la Tamise entre ses mornes parapets. Mais c'est après bien des années qu'une autre qui te ressemblait devait le long des maisons grises me faire signe et m'accoster. Ce n'est pas toi, c'est tout ce que tu me rappelles, comme j'étais triste avant de te connaître, comme je m'enfonçais avec délices dans ma tristesse, en marchant dans les rues, en entrant dans les bars, en suppliant la nuit les ombres de parler, sans cesser d'errer et d'aller, mais partout il était trop tard. Un air d'accordéon s'achevait en hoquet. On décrochait l'une après l'autre les lumières et le passant à qui je demandais du feu me tendait un cigare éteint ou me portait mes pas. C'était la même histoire. J'allais toujours vers les sifflets des trains sur un grand boulevard trouble et peuplé de fantômes. Là, je t'attendais. Je ne sais qui, je ne sais quoi, mais les trains passaient en hurlant et cette attente avait l'air d'un départ. Tu es venu pour t'en aller. Je t'ai pourtant conduite en ces lieux désolés et tu m'as dit, quoi que tu fasses, c'est moi désormais que tu verras parmi tous ces fantômes. Tu me sentiras près de toi, tu penseras que je suis morte et jamais tu ne m'oublieras. Je t'écoutais, je te suivais sous les lumières. Il n'y avait que nous deux vivants en ces lieux, nous seuls, mais je savais que dès de la première, ce serait toi qui me dirais adieu. Et j'avais beau ne pas vouloir te retenir par ta petite main, le cri, le roulement et la fumée des trains, les rails et leurs feux en veilleuse, le pont noir, tout retentissait du bruit des lourds wagons entrechoqués par un présage obscur déjà nous séparés. Une autre fois, dans ce quartier sinistre, nous nous sommes assis sur un banc à la nuit et le vent qui chassait la pluie, les globes des hôtels meublés, les marlots aux chandails humides, les filles qui nous regardaient accumulaient autour de nous les maléfices dont le cercle se rapprochait. Alors tu t'es mise à pleurer, à m'expliquer, sans élever la voix, qu'un jour tu me délivrerais de ces larves qui sont en moi. Tu parlais et la pluie tombait. C'était la pluie qui te faisait pleurer, comme un chagrin que rien n'apaise, comme une pelle inconsolée. Et la ronde des ombres et des feux des maisons tournait infatigablement avec ses voyous et ses filles, ses bars où les fourneaux grinçaient en nous jetant quelquefois par la porte comme l'appel d'une voix morte. La ronde, que rien ne lassait, tournait et m'emportait avec toi qui es morte. Tourne et m'emporte encore avec tout mon passé, hors du temps, hors du monde, hors de tout ce qui est ou qui n'est pas, mais que toi, dans l'ombre, tu sais. Jardin d'Isis, vous pouvez retrouver cette émission de poésie chaque deuxième et troisième jeudi du mois de 12h15 à 12h45 dans le Plus Mag et également de 18h10 à 18h40 ou réécouter sur les podcasts de Radio FM Plus en allant sur le site www.fmplus.org.